Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de ce journal, le gouvernement congolais appelle les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne à prendre des sanctions plus fortes contre le Rwanda, par un des groupes armés auteurs des crimes de guerre dans l'est de la RDC. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a honoré la lauréate du prix des droits de l'homme des Nations Unies 2023 ce week-end. Julienne Lusenge était sacrée gagnante pour son engagement dans la défense des droits des femmes victimes des affres des conflits armés. Elle est l'invitée de ce journal. Jeux olympiques, le judoka congolais Arnold Kisoka exprime sa déception après son élimination. Il a perdu hier devant l'Israélien Yam Volkzak en éliminatoire de 16e de finale dans la catégorie de moins de 60 kilos. Bonjour à toutes et à tous. Commençons d'abord par cette nouvelle. À Kinshasa, 9 morts et plusieurs personnes admises en réanimation hier samedi au concert du musicien chrétien Mike Kalambay au Stade des Martyrs. C'est le bilan provisoire annoncé par la RTNC, les médias officiels. Selon ces médias, tous les corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital Vidjana dans la commune de Lingwala. Le ministre de la Santé déplore ces drames. Docteur Roger Kamba met en cause les organisateurs qui, selon lui, n'ont pas associé le ministère de la Santé à l'organisation de ces méga-concerts. Le gouvernement congolais appelle les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne à prendre des sanctions plus fortes contre le Rwanda. Ceci après les sanctions prises au courant de la semaine dernière par les départements du Trésor américain qui ont ciblé des chefs des groupes armés qui alimentent les conflits et la situation humanitaire catastrophique dans l'est de la RDC. Ensuite, celles de l'Union européenne qui ont ajouté des mesures restrictives contre 9 personnes et une coalition terroriste accusée des violations graves des droits de l'homme et d'entretenir les conflits armés, l'instabilité et l'insécurité en RDC. Dans un communiqué publié hier samedi par le ministre de la Communication et des Médias, le gouvernement congolais dit prendre note de ces sanctions. D'autres précisions avec vous, Alain Irung.
Dans ce communiqué, le gouvernement congolais salue la prise de ces sanctions ciblées qui s'inscrit dans une dynamique de lutte contre l'impunité des auteurs des crimes internationaux commis contre sa population et sur son territoire national tel que détaillé dans le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Le gouvernement congolais souligne l'importance des sanctions ciblées et supplémentaires contre les dirigeants du Rwanda impliqués dans la chaîne de commandement supervisant la campagne de déstabilisation dans l'est de la RDC. Ces sanctions sont indispensables pour mettre un terme aux violations graves du droit international qui perdure dans un contexte de tolérance internationale et d'impunité et pour favoriser un environnement propice à des solutions durables dans les conflits récurrents dans la région des Grands Lacs, conclut le communiqué.
À juste titre, pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, nous avons besoin d'une solution politique. C'est ce que pense Ingo Herbert, ambassadeur de l'Allemagne en RDC. Il l'a dit vendredi à Kashusha, territoire des Kabare au sud Kivu, lors de l'inauguration d'un projet de textile financé par l'Allemagne. Pour lui, il y a déjà une base pour le retour à la paix et la cohésion, mais en dépit des efforts fournis par les populations, il faudrait que les dirigeants travaillent ensemble avec les pays de la région pour une solution politique. Il l'a dit au micro de Rachel Kiesembangu.
La violence, une guerre, ce n'est pas une solution parce que c'est mon impression que les gens d'ici, mais aussi de notre Kivu, Ituri, ils ne veulent que la paix. Et c'est à la politique, on est prêt de soutenir les initiatives pour la paix. La présence de l'armée rwandaise, c'est une violation du droit international public, de la Charte des Nations Unies. Mais pour trouver une solution, c'est au gouvernement du Congo de travailler avec le soutien de la région, de l'Afrique, aussi de la communauté internationale. Quand je suis dans la région, aussi comme à Bukavu, je suis heureux de voir aussi à Goma que, par exemple, les frontières sont ouvertes et il y a tant d'échanges. Ça veut dire qu'il y a des gens des deux côtés qui travaillent ensemble. Et peut-être ça, c'est aussi une base. Mais à la fin, comme je dis, pour vraiment terminer ce conflit, on a besoin d'une solution politique.
Cependant, au Nord Kivu, depuis plus ou moins 6 mois, la chefferie des Bachou, dans le territoire de Beni, vit dans une accalmie relative. Les activités socio-économiques ont repris dans toutes les localités. La population qui s'est déplacée dans les villes de Butembo et de Beni regagne ses champs, y compris ceux éloignés et où les opérations militaires des forces conjointes congolaises et ougandaises ont cours. Toutefois, les leaders communautaires appellent la population à ne pas perdre de vue les défis sécuritaires et redoubler de vigilance. Sadam Patangouli, un des leaders communautaires de la chefferie des Bachou, explique au téléphone de Marc Marofimbo.
Cette accalmie se justifie par la confiance que la population a accordée aux opérations conjointes entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Cette accalmie aussi se justifie par le fait qu'il y a eu plusieurs séances de sensibilisation que les leaders d'opinion ont pu mener pour rapprocher les populations civiles de ces forces armées de la République démocratique du Congo à travers les relations civilo militaires, ce qui fait que certains habitants commencent à regagner leur champ, ce qui est une bonne chose, mais il y a en tout cas beaucoup à faire, parce que l'ennemi est malin, donc cette accalmie ne nous fasse pas oublier tout ce que nous avons connu. Donc vigilance oblige, malgré cette accalmie que nous traversons pour le moment ici en chefferie de Bachou, il nous faut en tout cas multiplier encore beaucoup plus d'efforts pour consolider cette accalmie.
Au Nord Kivu toujours, des présumés auteurs de la criminalité interpellés cette semaine par les forces de défense et de sécurité ont été présentés ce samedi au maire de Goma. Un des résultats de l'opération s'affiche à Mudjua Goma, entendait nettoyer la ville de Goma. Au nombre de ces individus, un certain Amissi. Il est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre il y a environ une semaine d'un soldat du contingent sud-africain de la SAMI-RDC, Chris Mukand.
Amissi est décrit comme faisant partie de la bande des malfrats qui terrorisent le quartier Bujovu en commune de Karisimbi. Il braquait ses victimes à l'aide d'un pistolet qu'il détenait par derrière lui. Dangereux, selon le sous-lieutenant Olivier Sadiki de la 34e région militaire qui a procédé à la présentation des 4 bandes de personnes interpellées. Quelques-uns des bandits qui ont terrorisé avec armes blanches la semaine dernière les habitants de la localité Kinogo, un groupement Munigi dans le territoire de Nyiragongo, ont également été rattrapés. Le cas qui intriguait celui des jeunes gens trouvés en possession d'un fusil de très grande précision, propriété des forces armées de la République démocratique du Congo, a en croire le commissaire supérieur principal, Faustin Kapenkamande, maire de Goma.
Cette arme coûte cher, mais qui se retrouve entre les mains des civils parce que ce sont des bandits. Ça doit nous interpeller, nous tous, commandants de différentes unités, comment gérer le matériel de guerre.
Des dames et autres personnes poursuivies respectivement pour suspicion de recel, enlèvement et autres actes délictués font également partie des bandes présentées. Chris Mukande, Goma, Radio Kapi.
Par ailleurs, le tribunal des grandes instances de Mokambo, extension de Kipushi dans les Haut-Katanga, a condamné vendredi le nommé Jean Kasongo Akasongo à la peine capitale. C'était au cours d'une audience foraine organisée en procédure de flagrance. Il lui est reproché d'avoir donné la mort à un motocycliste dimanche dernier, ce qui a été à la base d'une forte tension observée jeudi dernier à Mokambo. La population en colère a saccagé notamment les parquets et les commissariats de la police où étaient détenus. S'est prévenu. Incident qui a fait déplacer vendredi le ministre provincial de l'Intérieur dans cette commune du territoire de Sakania pour s'enquérir de la situation. Retour sur les faits avec vous, Jean Gandou.
D'après plusieurs sources, 2 hommes en provenance de Kasumbalesa sont arrivés à Mokambo dimanche dernier. Ils ont sollicité le service de 2 motocyclistes pour les amener à Kabembe, situé à 8 km de Mokambo. En cours de route, les 2 clients se sont transformés en bourreaux. Ils ont agressé les 2 motocyclistes avant d'emporter leur moto. Cette scène était vécue par un habitant du coin qui a aussitôt alerté les militaires qui sont sur cet axe. Ceux-ci ont mis la main sur l'un de 2 hommes, l'autre s'étant échappé. Il a été conduit au parquet de Mokambo. Ce jeudi, au cours de l'interrogatoire, il a indiqué le lieu où il a laissé les 2 motocyclistes. Dépêchés sur place, les éléments de la police ont fait un constat amer. Un des motocyclistes était déjà mort et l'autre, de nationalité zambienne, était agonisant. Ce dernier a été transféré dans une structure médicale de la place avant qu'il ne soit reconduit dans son pays. À l'annonce de la nouvelle, certains habitants de Mokambo, dont le membre des familles de la victime, sont allés au parquet pour exiger qu'on leur livre l'incriminé. Face au refus des autorités judiciaires, ces habitants en colère ont saccagé les bureaux du parquet, le commissariat de la police. Ils ont aussi détruit le cachot, permettant ainsi à tous les 19 détenus de prendre les larges. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a libéré ce samedi soir 421 prisonniers de la prison centrale de Makala sur 15 300, dont 2540 condamnés. Il s'agit d'une première vague de libération conditionnelle et commutation de peine pour les condamnés. Constant Mutamba promet d'en faire autant chaque semaine pour atteindre 7000 libérations avant les 10 août, ce qui permettrait de désengorger cette maison carcérale surpeuplée de détenus préventifs pour de faits bénins. Julien Lusenge, la lauréate du prix des droits de l'homme des Nations Unies 2023, a été hier samedi à l'honneur à Kinshasa. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé une réception pour célébrer ce prix qui lui a été remis l'année dernière à New York aux USA. Les Nations Unies reconnaissent à cette artisane de la paix, l'engagement et la fermeté dans son combat pour défendre les droits des femmes confrontées aux différents affres des conflits armés. C'était une occasion pour Julien Lusenge d'exprimer sa gratitude aux Nations Unies et d'encourager les jeunes femmes à lui emboîter les pas de manière à continuer la lutte pour le respect des droits des femmes en RDC. Julien Lusenge s'exprime au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
Aujourd'hui, c'est un grand jour. Ce n'est pas seulement le jour pour Julien. C'est un grand jour pour toutes les femmes défenseurs des droits humains. Tous les acteurs qui font la promotion des droits de l'homme, c'est notre jour. Et j'ai dit aux jeunes, le chemin parcouru, c'est pas facile. Travailler pour les questions des droits de l'homme, des droits des femmes, ce n'est pas facile. Mais il faut tenir, il faut avoir l'engagement, il faut pas avoir le gain. J'ai travaillé plusieurs fois sans rien toucher. J'ai mis ma famille à risque plusieurs fois, mais j'étais déterminée, je suis toujours déterminée à lutter pour la paix, pour la justice et pour que les femmes de mon pays puissent vivre dans un milieu sans violence, surtout jouir de leur pays. Donc, les jeunes, engagez-vous. On est là pour vous accompagner. Soutenons-nous, continuons ensemble pour protéger notre pays.
Dans la province de Lomami, le directeur de l'école primaire Yamukukile, dans la localité de Tchofa, territoire de Lubao, s'insurge contre l'arrêt des travaux de construction de son école dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Jean Kalombo affirme que tous les bâtiments de son école ont même été démolis par l'entreprise qui a gagné les marchés auprès du bureau central de coordination BCECO pour la construction d'une école moderne à Tchofa Centre. Suite à cette situation, plus de 500 élèves de cette école ont fini les enseignements dans des conditions déplorables. Des explications avec Esther Ndalafina.
L'école primaire Yamukukile de Tchofa est une institution scolaire non conventionnée. D'après son directeur, cette institution a été ciblée pour être construite et modernisée dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Une fondation a même été érigée par l'entreprise qui a gagné le marché de construction des écoles à Tchofa. La construction a été suspendue au mois de décembre dernier. D'après le directeur de cette école, les élèves ont étudié en dessous des arbres et ont par la suite fini les enseignements dans une autre école tout en optant d'étudier les après-midi. Jean Kalombo redoute que cette situation ne reprenne l'année prochaine. Il demande au BCECO de reconstruire les bâtiments démolis.
Nous avons étudié aux après-midi avec les enfants et surtout dans les milieux où nous vivons. Peut-être que les autres partent affamés. L'année scolaire 2024-2025, est-ce que nous allons encore continuer dans le même rythme?
Contacté, le chef d'antenne de BCECO Lomami dit n'avoir pas été informé de cette situation. Il prévoit de mener les enquêtes auprès de l'entreprise qui a gagné le marché pour la construction des infrastructures dans cette contrée avant de se prononcer sur cette situation. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le judoka Arnold Kisoka, premier athlète congolais à entrer en lice aux Jeux Olympiques de Paris hier samedi dans la matinée, a été éliminé de la compétition. Il a perdu devant l'Israélien Yam Volkzak en éliminatoire de 16e de finale dans la catégorie des 60 kilos. Sachez que d'autres Congolais vont entrer en compétition dans quelques jours. Le 30 juillet, pour sa deuxième participation aux Jeux Olympiques, la boxeuse congolaise Marcela Sakombi sera face à Luz Québec, Sitora Tourdibekova, en 16e de finale. Dans la même discipline, le 1er août, Brigitte Mbabi, exemptée au premier tour, affrontera en 8e de finale la Thaïlandaise Jean Jaem Suwanafeng chez les 66 kilos.
Actualité internationale.
Lourde perte pour l'armée malienne et ses alliés russes lors des combats face aux rebelles du CSP. La localité de Tinzawaten a été l'épicentre d'affrontements depuis jeudi 25 juillet entre les rebelles du cadre stratégique et permanent CSP et l'armée malienne, fortement appuyée par le mercenaire russe. Les deux dernières forces crient victoire, mais ont subi en réalité des revers et des pertes importantes, selon plusieurs sources.
L'invité.
Comme annoncé, notre invité est Julienne Lusenge, lauréate du prix des droits de l'homme des Nations Unies 2023. Une réception pour célébrer ce prix qui lui a été remis l'année dernière à New York aux USA a été organisée hier samedi à Kinshasa par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans son entretien avec Askin Zigbia, Julienne Lusenge revient sur l'importance de ce prix obtenu dans la lutte pour le respect des droits des femmes en RDC.
Madame Julienne Lusenge, bonjour.
Bonjour.
Que dites-vous de ce prix? Vous l'avez mérité ou pas?
Ce n'est pas mon premier prix. C'est vraiment un prix mérité, mais ce n'est pas seulement pour Julienne. C'est un prix qui a été donné à toutes les femmes congolaises parce que ce sont des femmes résilientes, des femmes fortes. Malgré toutes les situations difficiles, les violences que nous traversons, les conflits qui nous déplacent de nos milieux, de nos villages, de nos maisons, ces femmes restent constantes et sont résilientes et continuent à se battre pour dire non à cette violence. Donc nous méritons, les femmes congolaises méritent la reconnaissance des Nations Unies.
Oui, selon les informations à notre possession, ça fait au moins 40 ans que vous êtes aujourd'hui dans la lutte comme leader artisane de la paix dans votre pays. Est-ce que le chemin parcouru a été facile pour vous pour y arriver?
Non, ça n'a pas été facile, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Quand nous avons commencé l'organisation Sauf et Pas Dit, il y a 24 ans maintenant, ce n'était pas facile parce que c'était la guerre interethnique en Ituri. Mmh. Et nous, on devait parler de la paix, on devrait expliquer aux femmes leurs droits et on devrait aussi faire le plaidoyer pour la paix. On a rencontré plusieurs délégations qui allaient en Ituri pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'était une guerre atroce. Les gens mouraient, on tuait les gens, c'était terrible, la guerre qui s'est passée en Ituri. Mais bon, nous les femmes de l'Ituri, à ce moment-là, toutes les femmes, toutes tribus confondues, on s'est levées pour dire non à la guerre. On a écrit beaucoup de mémos pour dénoncer, parce que c'était pas seulement les gens de l'Ituri qui s'entretuaient, c'était des guerres commanditées, instrumentalisées, c'est comme ça que les gens étaient en train de se tuer, l'Ouganda... Et le Rwanda, ils ont occupé aussi la partie de notre territoire. À ce moment-là, à 2000, jusqu'à 2003-2004, c'était difficile. Et aussi, on n'avait pas les financements.
Tout à fait.
On n'avait aucun financement. On travaillait nous-mêmes, on cotisait nous-mêmes pour faire le travail.
C'était un début de travail. Hein?
C'était un début de travail. C'était un grand champ à défricher, à avancer avec. Mais on était très déterminés. Et en plus de l'organisation Sauf et Pas Dit, on s'est dit, on se met ensemble, on crée le Forum des femmes de l'Ituri qui rassemble maintenant toutes les femmes, associations ou pas associations, toutes on était ensemble pour avancer, pour parler de la paix, parler des droits des femmes, du respect, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ça n'a pas été facile et surtout quand on a commencé l'accompagnement judiciaire, là, c'était vraiment le calvaire.
Alors, madame, quel est le bon souvenir que vous gardez à travers votre combat pour la défense des droits des femmes dans votre pays?
Il y en a beaucoup. Il y a des enfants qui ont été des enfants nés du viol ou victimes de viol qui ont été remises à l'école, des filles qui ont été remises à l'école, même des garçons qui ont été remis à l'école, qui ont étudié, terminé l'école primaire, même l'école secondaire, d'autres sont allés jusqu'à l'université. Il y a des femmes qui sont arrivées complètement détruites, qui ont été guéries, accompagnées judiciairement, accompagnées psychologiquement et aussi la réinsertion socio-économique. avec les messages de sensibilisation pour lutter contre la discrimination.
Alors, de tous les travaux abattus, je crois l'accompagnement des Nations Unies quand même vaut son pesant d'or.
Oui, l'accompagnement des Nations Unies vaut son pesant d'or parce que à des moments difficiles, nous avons recouru aux Nations Unies pour nous aider avec la protection des autres acteurs, des autres activistes, parce que ça aussi c'est difficile dans un pays où il y a les conflits, dans les zones de conflits et partout, il y a des femmes activistes, des défenseurs de droits, qui sont menacées, qui sont parfois violées à cause de leur travail. Donc chaque fois que nous avons des cas, nous venons vers les Nations Unies pour dire voilà, aidez-nous, soit à déplacer la personne, soit à faire des plaidoyers pour sa protection.
Madame Julienne Lusenge, je vous remercie.
Merci à vous aussi.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information mise en onde pour vous par Debs Vita. Alain Irung-Mouchin, je l'ai supervisé et coordonné à la présentation Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de votre sympathique attention.